Jean-Louis Grenda, l'été prochain, ça va être le grand retour de Carmen. Carmen, elle est souvent venue au pied du mur d'Auguste. Il y a eu un long règne de Béatrice Soria Monzón. Et là, ce sera une autre Carmen que vous allez nous proposer.
Et quelle Carmen, Marie-Nicole Lemieux. C'est presque une surprise pour moi aussi, parce que, en fait, j'ai une production de Carmen que j'ai représentée beaucoup. D'ailleurs, je l'ai fait encore. On a terminé dimanche dernier à Marseille, avec, je crois, un très très grand succès. Il y a environ un an, le Capitole de Toulouse a souhaité reprendre mon spectacle de Carmen. Je l'avais créé à Toulouse, et puis ils ont souhaité reprendre. Et là, le directeur de Capitole, Christophe Gressier, me dit: Tu sais, je vais donner Carmen à Marie-Nicole Lemieux. On pourrait imaginer que c'est un contre-emploi, puisque Marie-Nicole Lemieux est une femme opulente qui n'est pas vraiment la Carmen que l'on peut imaginer instantanément.
Par William Higuénès.
C'est pas Miguel, c'est pas Béatrice Soria Monzón qui était d'une somptuosité, d'une grande beauté, une grande chanteuse bien sûr, mais une grande beauté. Elle est très belle, Marie-Nicole Lemieux, mais elle est très belle avec des formes très opulentes et nous la connaissons bien. Et je veux dire, tiens, dans Carmen, c'était une surprise, c'est un challenge, hein. Et je dois vous dire que j'ai vu la meilleure Carmen du monde, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, personne ne chante Carmen comme Marie-Nicole Lemieux. Et je trouve que personne n'incarne ce rôle avec cette audace, cette franchise, cette désinhibition du corps, et en même temps d'assumer sa féminité comme elle le fait, comme je lui demande de le faire. C'est prodigieux. Et ça en fait une artiste, mais incroyable dans Carmen. C'est un choc. Moi, je peux vous dire, j'ai passé des moments, mais exceptionnels avec elle. Et c'est à la fin de la première représentation où je l'ai vue, même pas à la fin, à l'entracte, après un deuxième acte où c'était, mais elle a été au-delà, parce que artistiquement, ce qu'un metteur en scène peut rêver, j'étais la voir. Elle pensait ne le chanter qu'une fois dans sa vie. Et j'ai dit, tu sais, tu vas le chanter une deuxième fois, c'était à Orange. Et là, la première chose qu'elle a fait, elle m'a regardé, elle s'est mise à pleurer.
Chanter à l'Opéra de Marseille, chanter dans la salle du Capitole à Toulouse, bon, c'est assez rassurant, mais là, tout à coup, à Orange, c'est un véritable challenge, non?
Non, elle a une grande voix, Marie-Nicole. Une voix d'une très grande qualité, une articulation française parfaite. Et elle a l'habitude de chanter Orange. Elle a fait Dalila il y a 2 ans. Non, c'est une artiste qui a l'ampleur extraordinaire qu'il faut pour être à Orange et au Corégie. C'est une artiste vraiment que je trouve, mais vraiment formidable. Oui. Et j'ai la chance dans ma vie, je côtoie régulièrement Brin Terfel, Cecilia Bartoli, Roberto Alagna, enfin beaucoup de très très grands artistes. Elle en fait partie, elle est au même niveau. Elle a l'humilité, elle a l'intelligence, elle a la fantaisie, elle a la réflexion et elle a le talent. Donc voilà, ça fait beaucoup.
Votre mise en scène à Orange, vous alliez l'allonger,
Élargir.
l'élargir plus exactement, par rapport à ce que vous avez créé pour un théâtre italien?
Mais j'ai pas encore trop pensé. Vous savez, moi j'improvise beaucoup. Hein. J'aime bien me. Ah, mais c'est vrai, je vous assure, personne ne me croit. Vous pouvez me mettre 100 choristes devant moi. Quand je commence une scène, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis même pas capable de dire, vous rentrez par où, je décide au moment même. Je sais quel est mon projet artistique. Je prépare le décor, tout ça. Je sais là où je veux en venir. Mais je m'interdis de faire quelque chose au millimètre, comme ça. Oui, alors écrire sur ma partition, il rentre à droite, elle remonte à gauche, elle va à la table. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas là pour faire la circulation. Je suis là pour prendre des atmosphères, des ambiances, une force. Et quand vous avez un chœur en face de vous de 100 personnes, comme il y aura Orange, ben, ça va m'inspirer. Comme ça m'a inspiré pour le Méphistophélée, comme ça m'a inspiré pour Samson, comme toujours ça m'a inspiré. Alors parfois on peut réussir, parfois on peut moins réussir, j'en conviens bien volontiers, mais enfin bon, jusqu'à présent ça s'est pas trop mal passé. Mais dans Carmen, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement d'élargir sur scène, parce que de toute façon, Carmen, ça se termine à 2 personnages. Hein. Carmen et Don José sur un plateau. Alors qu'il fasse 12 mètres de large ou qu'il fasse 60 mètres de large, on ne peut pas mettre plus que 2 personnes à la fin. Vous voyez? Donc il faut trouver tout ce qui amène les spectateurs à croire à ce moment-là que c'est possible de terminer sur un grand plateau avec 2 personnes en scène.
Vous avez véritablement relancé les Corégies d'Orange. Vous avez amené le ciné-concert, Pompi Opéra. Vous avez ramené la danse également aux Corégies. Vous pouvez déjà dresser un petit bilan de ces années de Corégies?
Eh bien, je vais vous dire, prends un bilan que je vous dirais, c'est que c'est dur. C'est dur, mais j'adore ça. Non, j'ai fait évoluer la programmation des Corégies, parce que tout doit évoluer dans la vie. Je ne fais pas mieux que mon prédécesseur, certainement pas. Je fais de façon un petit peu différente, c'est bien normal. Hein. Tout le monde peut le comprendre. Oui, effectivement, j'ai amené la danse, j'ai amené cette année le jazz avec Kyle Eastwood, avec la musique des films de son père, de Clint Eastwood, le ciné-concert et tant d'autres choses. Et puis surtout, j'ai renouvelé les titres qui ont été présentés. L'Élixir d'amour n'avait jamais été joué, le Barbier de Séville non plus. Don Giovanni n'avait pas été joué depuis 25 ans, Méphistophélé n'avait plus été joué depuis 1905. Guillaume Tell, mon opéra préféré, Guillaume Tell n'avait jamais été représenté. On ne peut pas dire que je joue petit bras. Pourquoi ? Parce que je fais confiance au public. Je pense que les gens ont besoin de ça, de nouveautés, et que si on continue à toujours jouer les mêmes choses, ben, le répertoire va s'amenuiser, parce que finalement, on jouera sur 3 titres. Alors cette année, je ne monte pas Carmen pour faire du monde. J'espère qu'il y aura du monde. Je sais qu'il y aura du monde. Je fais Carmen parce qu'il y a aujourd'hui la plus grande Carmen du monde, Marie-Nicole Lemieux. Et c'est ça que je veux montrer au public. C'est ça ma motivation.
Au niveau des ciné-concerts, on a eu un cycle Chaplin. Ouais. Là, vous amorcez un cycle Buster Keaton, puisque ce sera le Mécano de la Générale, ouais, avec en plus l'Orchestre National Avignon-Provence.
Oui, avec Deborah Valmann qui va le diriger, mais ce sont des films formidables, c'est des films merveilleux. Il y a longtemps que je m'intéresse au cinéma muet, mais je l'ai découvert quand j'ai commencé vraiment à faire des ciné-concerts. Et finalement, mon premier choc, je vais vous dire, ça a été La Bohème de King Vidor. En cinéma muet. J'ai trouvé que c'était un film merveilleux avec Liliane Guiche. Et puis ensuite, voilà, alors on a fait plein de choses à Orange, j'ai fait plein de choses à l'Opéra de Monte-Carlo également. Une de mes plus belles expériences, d'ailleurs, ça a été La Veuve Joyeuse d'Eric von Stroheim, qui est une chose absolument merveilleuse, extraordinaire, qui n'a que très peu à voir avec l'opérette que nous connaissons, qui retourne aux sources et qui est vraiment un film vraiment génial. Alors là, donc, c'est Buster Keaton, Le Mécano de la Générale, un film fantastique dans le sens où à l'époque ça a été pour les studios hollywoodiens le film le plus cher de l'époque. Donc il a un train qui tombe dans un ravin par exemple, vous voyez, c'est pas rien quand même, faut l'organiser, vous voyez. Et Keaton était en plus un artiste du détail, c'est-à-dire un grand gagman, un acrobate lui-même, et en même temps quelqu'un, comme toujours, comme Chaplin, ce genre-là, qui était extrêmement soucieux au millimètre près de ce qu'ils allaient montrer, comment ils le montraient. Et ça c'est formidable. Dans Le Mécano de la Générale, il y a à la fois ce que j'aime, c'est-à-dire le rire, l'éclat de rire, les gags, le burlesque, et derrière tout ça, toujours l'émotion, une petite pointe de mélancolie. Je pense que tout le monde connaît l'image de Keaton qui est sur l'essieu de la locomotive. Il est assis comme un pierrot sur le toit, par exemple, qui attend ne sait pas quoi, qui attend sa colombine, et là, il est là, le visage un peu triste, comme à la Buster Keaton, un peu rêveur, et tout d'un coup, alors que cette image n'est pas très drôle, tout d'un coup, le train démarre, et donc on voit Keaton qui monte et qui descend sur l'essieu, et ça, ça fait rire tout le monde. Ces gens-là sont des vrais génies, parce qu'ils avaient inventé quelque chose. Ce sont des grands modèles.
La Mécano de la Générale, qui est aussi un grand film à suspense, c'est un chef-d'œuvre du film Poursuite, hein, parce qu'il est poursuivi pendant 1h10. Eastwood symphonique. Clint Eastwood, au-delà de son talent d'acteur et de metteur en scène, il a souvent signé la musique de ses propres films. Oui. Là, en fait, ce qu'on va écouter grâce à Kyle Eastwood, c'est-à-dire le fils de Clint, ce sera vraiment en one-shot, puisqu'il y aura un orchestre symphonique. Ou est-ce que, disons qu'il y a une tournée avec chaque fois un orchestre différent ?
Là, ce sera avec l'orchestre d'Avignon, bien sûr. Ça sera avec le groupe de Kyle Eastwood. Remettons les choses dans l'ordre. Kyle Eastwood, c'est le fils de Clint Eastwood, mais ce n'est pas seulement son fils. C'est aussi un très, très grand contrebassiste de jazz. Et il a son propre groupe qu'il mêle à l'orchestre symphonique pour présenter les musiques des films réalisé par son père. Alors il n'y a pas que des musiques de son père, il y a des musiques d'autres. Et pour ceux qui connaissent bien la filmographie de Clint Eastwood, qui non seulement, vous l'avez rappelé, est un grand acteur et un grand réalisateur, de même que la photographie qui est toujours exceptionnelle dans les films d'Eastwood, la musique qui tient une part très très importante. Il aime la musique, il aime le jazz, ça se sent et il l'utilise de façon parfaite. Et c'est ça que je voudrais dont on prenne conscience lors de cette soirée.